Bienvenue dans notre échange. On imagine souvent la décolonisation comme un élan, disons, viscéral vers la liberté, non ?
Oui, dès que l'occasion se présente en général.
Exactement. Pourtant, le 16 août 1995 aux Bermudes, cette certitude vole complètement en éclats.
Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Lors de ce référendum historique, 74,12% des votants ont dit non à l'indépendance, ce qui fait des Bermudes la seule majorité noire de l'histoire post-coloniale à rejeter sa propre souveraineté lors d'un vote libre.
C'est un chiffre frappant, en effet.
Aujourd'hui, on débat des véritables moteurs de ce Vosgien spectaculaire. Je suis convaincue, pour ma part, que ce vote a été dicté par une manipulation politique féroce.
Et de mon côté, je défendrai l'idée d'un pragmatisme économique vital pour l'île. Je suis certain que c'est la véritable clé.
Alors commençons par le contexte, si vous le voulez bien.
Avec plaisir. J'aborde la question sous un angle très concret, en fait. Je ne nie pas la tactique politique qui a eu lieu, bien sûr, mais je pense que ce rejet traduit d'abord un choix structurel profond.
Un choix économique, vous voulez dire ?
Absolument. Les Bermudes n'étaient pas un territoire ordinaire. C'était un centre offshore majeur. En tant que tel, l'économie de l'île dépendait entièrement, mais alors entièrement, de la confiance des investisseurs étrangers.
Oui, c'est le modèle de l'époque.
Et sans le tampon juridique et la stabilité offerte par la couronne britannique, les capitaux auraient fui du jour au lendemain. Les électeurs le savaient pertinemment.
Je l'entends. Mais la mécanique des urnes raconte une toute autre histoire. Pour moi, c'est l'histoire d'un parti d'opposition qui a tout simplement pris le scrutin en otage.
En otage ? Le mot est fort.
Mais c'est la réalité stratégique aux Russes. Le Progressive Labour Party, le PLP, qui était dirigé par L. Frederick Wade, a intimé à ses électeurs de ne pas se rendre aux urnes. Et la manœuvre a fonctionné de façon spectaculaire.
C'est vrai que l'abstention a été massive.
La participation s'est effondrée à 58,76%. C'est un contraste saisissant avec les 78% de l'élection de 1993. Ce n'est pas un quelconque conservatisme qui a dicté les 16 369 voix non contre les malheureuses 5 714 voix oui. Wade a littéralement asséché les urnes pour sceller le résultat.
C'est vrai pour la politique politicienne, mais on ne peut pas ignorer l'éléphant dans la pièce, à savoir la véritable anxiété de la population.
Vous parlez des craintes financières.
Oui, exactement. La Bank of Bermuda avait publiquement averti des risques d'effondrement. D'ailleurs, et c'est là que je remets en question votre théorie du boycott, un sondage publié 2 mois avant le référendum plaçait déjà l'opposition à 80%.
Attendez, à 80% si tôt ?
Oui.
Bien avant que le PLP ne lance son mot d'ordre d'abstention.
Pour bien comprendre l'ampleur de ce chiffre, ça prouve que la population privilégiait son équilibre financier avant toute consigne partisane.
C'est précisément là que le paradoxe devient saisissant. Si l'économie dictait réellement ce choix, pourquoi le PLP, qui est historiquement le parti le plus favorable à l'indépendance, s'y est-il farouchement opposé lors de ce scrutin ?
C'est une question légitime, en effet.
Ce n'est pas du tout cohérent avec leur idéologie d'idées. Le clivage était purement tactique et, disons-le, racial. Le Premier ministre, Jan Swan, était un leader noir à la tête de la United Bermuda Party, l'UBP, un parti au socle historiquement blanc.
Un positionnement complexe pour lui, c'est vrai.
Swan pensait qu'en coupant le cordon avec Londres, les Bermudiens seraient forcés de forger une identité commune. Il voulait soigner les fractures raciales de l'île.
Et le PLP a vu l'opportunité de l'en empêcher.
Exactement. Le PLP n'a pas rejeté l'idée de la souveraineté, il a imposé un veto procédural. C'est comme un vote de défiance déguisé. Ils ont transformé un référendum sur l'identité nationale en un simple outil pour faire trébucher le Premier ministre.
Je vois tout à fait l'idée du piège politique. Mais cette tactique n'aurait jamais fonctionné si le gouvernement Swan n'avait pas lui-même créé un climat de panique avec sa gestion désastreuse du scrutin.
Vous faites référence à la météo ?
Pas seulement, mais le matin du vote, c'était le chaos logistique absolu à cause de la tempête tropicale Félix. Des rumeurs prêtaient au gouvernement l'intention de repousser la consultation de plusieurs mois.
C'est vrai que la situation était très confuse ce jour-là.
Il a fallu l'intervention directe du gouverneur britannique Lord Waddington pour forcer l'ouverture des bureaux. L'enquête du juge Telford George a bien montré la défaillance totale des autorités locales. Face à cette impréparation flagrante, la population a logiquement préféré la fiabilité de Londres.
J'admets que les failles logistiques étaient immenses, mais regardez les conséquences à long terme pour comprendre l'intention initiale du PLP. La manœuvre a été si dévastatrice qu'elle a brisé John Swan, qui a dû démissionner quelques jours plus tard.
Une fin de carrière abrupte.
Et surtout, cette onde de choc a directement pavé la voie à la victoire historique du PLP en 1998, mettant fin à des décennies de pouvoir de l'UBP. Le mécanisme sous-jacent n'était pas un attachement sentimental à la couronne, c'était une prise de pouvoir implacable.
Le paysage politique a indéniablement basculé en 1998, je vous l'accorde. Mais cette victoire électorale n'efface pas la peur viscérale de l'effondrement économique qui tétanisait l'île en 1995. Nous naviguons ici entre deux forces majeures.
Lesquelles, selon vous ?
D'un côté, la stratégie redoutable d'un boycott politique, et de l'autre, le profond instinct de survie institutionnelle d'un petit territoire.
C'est ce qui rend cette page d'histoire si riche aujourd'hui. Il est d'ailleurs difficile de l'évoquer sans penser à l'actualité, puisque John Swan nous a quittés très récemment, le 4 juin 2026.
Oui, à l'âge de 90 ans.
Cet homme avait misé toute sa carrière sur cette élection, convaincu que son île était prête, et il a tenu parole en démissionnant dignement fin août 1995.
Un véritable dirigeant du peuple. Et il est très révélateur de constater qu'aucun gouvernement, ni l'UBP, ni le PLP, n'a jamais osé soumettre à nouveau la souveraineté aux électeurs depuis ce jour-là. Le traumatisme est resté.
Absolument. Ce qui nous laisse face à une interrogation tenace sur cette décolonisation avortée par les colonisés eux-mêmes.
C'est tout le paradoxe.
Face à l'urne, faut-il y voir le chef-d'œuvre cynique d'une opposition politique ou la lucidité pragmatique d'un peuple refusant de sacrifier sa stabilité ? C'est une dualité complexe que nous vous laissons méditer.